Les enjeux de l'œcuménisme, présentation générale. Voici la première partie de l'intervention de Mgr André Duplexe. Intervention enregistrée le 17 octobre 2019 à Pau, lors d'un cycle proposé par le service diocésain de la formation permanente et par le service diocésain de l'œcuménisme. Mgr André Duplexe est théologien, recteur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse et professeur à l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. Voici donc la première partie de cette intervention de Mgr André Duplexe, les anges de l'œcuménisme, présentation générale.
Introduction, donc, dans un ouvrage récent publié l'an dernier, qui s'appelle « L'âme de l'œcuménisme, l'unité des chrétiens comme processus spirituel », Georges Augustin résume son propos en écrivant « L'œcuménisme ne peut réussir que si nous recherchons une figure contemporaine de l'Église issue du centre de la foi chrétienne, mais conforme aux nécessités œcuméniques actuelles et à la situation mondiale actuelle, plus qu'aux catégories confessionnelles, traditionnelles et aux causes des divisions du passé. Il nous faut une grande force spirituelle pour abandonner une partie de notre propre histoire et de notre identité strictement confessionnelle et acquérir une identité chrétienne commune, plus grande et plus vaste. Cette identité plus grande devient visible là où l'œcuménisme est vécu comme un processus spirituel dans l'échange des charismes. Alors, je situerai volontiers mon intervention dans cette large perspective, tout en faisant ce soir, comme indiqué sur le programme, une introduction générale que j'intitulerai volontiers dans les défis actuels de l'œcuménisme, ou les enjeux, mais j'aime bien le mot défi. À la suite du Concile Vatican II, le pape Paul VI, évoquant l'œcuménisme, dira « C'est la tâche la plus mystérieuse et la plus importante de mon pontificat. » Il indiquait ainsi combien le souci maintenu de l'unité des chrétiens pouvait conduire sur des voies imprévues et ouvrir, sous l'impulsion de l'esprit, des perspectives dépassant les logiques institutionnelles et les oppositions séculaires. Et puis, après cela, l'encyclique « Ut unum sint » de Jean-Paul II en 1995 sur l'engagement œcuménique a confirmé l'intuition de son prédécesseur en reconnaissant à la fin du second millénaire un progrès incontestable et irréversible du dialogue entre les diverses confessions chrétiennes, quel que soit par ailleurs le poids encore lourd du passé et les différences et divergences maintenues. Quant au pape François, notre cher François, eh bien, il écrivait au début de son pontificat « Si nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble, dans ce monde, pour le peuple de Dieu, l'unité ne viendra pas. » Et il précisera dans l'exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile « Elles sont tellement nombreuses et tellement précieuses, les réalités qui nous unissent. » Et si vraiment nous croyons en la libre et généreuse action de l'Esprit, nous pouvons apprendre tant de choses les uns des autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des informations sur les autres, afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que l'Esprit a semé en eux, comme don aussi pour nous. On peut effectivement parler aujourd'hui, particulièrement depuis le Concile Vatican II, d'un véritable, Isabelle le disait, elle a bien raison, d'un véritable mouvement œcuménique, dans lequel sont engagés côte à côte, et selon les différents niveaux de leur charge, responsables d'église, théologiens et pasteurs. Il semble bien qu'en dépit des difficultés rencontrées, ou des blocages qui peuvent constamment ressurgir, ce qui est désormais acquis, et la reconnaissance que nous avons les uns des autres ne peuvent plus être remis en question. Point barre. Qu'est-ce qui a de fait changé? La disparition des condamnations réciproques et des soupçons systématiques qui pouvaient conduire certains chrétiens, dans les cas extrêmes, à considérer les autres comme des croyants d'une autre religion. Les rencontres et les dialogues qui se sont multipliés ont permis, sans lever tous les obstacles, de réaffirmer la base solide du baptême, on va y revenir, du baptême commun en Christ. Et puis la semaine de prière pour l'unité, bien sûr, a donné l'occasion de prier ensemble, d'entrer dans d'autres lieux de culte, de participer à d'autres liturgies, sans se sentir menacé dans sa foi. Cette reconnaissance mutuelle a permis également de mieux comprendre les distinctions à faire entre division, séparation et différence. Les débats portent aujourd'hui sur la conception de l'Église et en conséquence sur le contenu de l'unité et la façon dont nous pouvons la vivre en gardant des traditions et des sensibilités différentes. Par ailleurs, l'urgence d'un témoignage commun des chrétiens face aux changements de société et aux nouvelles menaces sur la paix et les grands équilibres du monde nous a aidés à dépasser un grand nombre de conflits internes et de contentieux relevant d'une vision passéiste et stérile de la religion ou du comportement croyant. Mais on va avancer maintenant davantage. Nous allons détailler maintenant les aspects les plus importants de cette quête d'unité. Donc, mon plan, je vais le suivre, ce qui est assez normal, assez habituel, je dirais. Donc, il y a 6 points. Premier point, un peu d'histoire. S'il convient de faire commencer réellement l'histoire de l'œcuménisme dans les premières décennies du XXe siècle, le souci d'une communion dépassant toutes les divisions ou déchirures internes remonte aux origines même du christianisme. J'ai enseigné la patrologie, j'ai passé ma thèse sur Saint Jean Chrysostome, j'ai enseigné la patrologie, dont l'histoire des premiers pères, et on voyait à quel point déjà il y avait des menaces de rupture, et déjà il y avait une volonté d'unité. L'origine même du christianisme, je dirais. Celui-ci est par nature et en référence au Dieu Trinité, communion en Christ ressuscité et différence, dès le départ. 1 Corinthiens 12, Paul. Il y a 4 évangiles qui disent la même bonne nouvelle. Les actes des apôtres relatent des débats parfois vifs, toujours conclus par un accord. La foi chrétienne s'est formulée progressivement et non sans tenir compte des dérives, hérésies, choix dérivants. Un hérétique, c'est quelqu'un qui choisit, c'est tout. Il y aura des bons choix et des mauvais choix. J'ai souvent dit au début de mes cours de christologie ou de théologie, mais ils étaient un peu surpris d'ailleurs, mais enfin j'ai gardé mon poste, donc ça veut dire que je n'ai pas fait trop de bêtises quand même. Mais j'aurais dit, écoutez, commencez par avoir de la sympathie pour les hérétiques. Arius, c'est pas n'importe qui. Bon, Luther, alors on le sait, bien sûr, maintenant, il y a des documents positifs, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens de grande qualité. Il ne pensait pas, il ne voulait pas la déchirure. Elle s'est faite pour un certain nombre de raisons, n'est-ce pas? Donc, ce que je voulais dire, il y a toujours eu des débats, mais souvent conclus par des accords. La foi chrétienne s'est donc formulée progressivement. Les conciles des 5 premiers siècles ont chaque fois rétabli l'équilibre doctrinal. Nicée en 325, affirmant face à Arius, à l'arianisme, la divinité de Jésus, fils de Dieu. Constantinople en 381, ajoutant à Nicée les articles affirmant la divinité de l'Esprit Saint. Éphèse en 421, affirmant contre le nestorianisme l'unité de personne de Jésus. Et Chalcédoine en 451, affirmant contre le monophysisme les deux natures humaines et divines de Jésus. De cette période datent les premières séparations réelles des églises que l'on appelle pré-calcédonienne, appelée aussi Église orientale ancienne, les nestoriens affirmant la dualité de personnes en Christ et insistant unilatéralement sur son humanité, les monophysites affirmant l'unité de nature et insistant unilatéralement sur sa divinité. Mais c'est en 1054, date du grand schisme d'Orient, que l'on situe ce que l'on considère comme la première des 3 grandes ruptures dans l'unité chrétienne, avec la séparation entre Constantinople et Rome, avec d'ailleurs excommunication réciproque. Les différences et les tensions plus culturelles que réellement doctrinales existaient déjà entre l'Orient et l'Occident, entre les sensibilités orientales et occidentales. Mais la division s'amplifia en particulier après le sac de Constantinople par les croisés en 1204. 1521, condamnation de Luther, c'est le point de départ de la séparation progressive des églises de la Réforme, dans la mouvance desquelles va se situer l'église anglicane, séparée à la suite de la décision du roi Henri VIII de se déclarer chef de l'église d'Angleterre, ce qui lui valut l'excommunication par Rome. Les courants de la réforme et les sursauts spirituels dits réveil, les réveils spirituels, donneront par ailleurs naissance à de nombreuses autres églises, comme les baptistes ou les méthodistes. L'histoire du XVIe siècle, à nos jours, je dirais, ce temps, est marqué par le maintien de ces grandes ruptures, par d'autres séparations internes aussi, mais aussi, on ne le dit pas suffisamment, par des tentatives de réunification. Deuxième concile de Lyon en 1272 et concile de Florence en 1445. Mais il faut vraiment attendre le début du XXe siècle pour que se concrétise vraiment le mouvement œcuménique, dont je rappelle maintenant les grandes dates. En 1910, la conférence internationale des missions protestantes à Édimbourg, qui marque le point de départ d'une série d'initiatives appuyées sur la volonté d'établir une alliance universelle pour l'amitié internationale par les Églises. Mouvement et vie, mouvement et action, ou christianisme pratique, on en reparlera tout à l'heure, en 1925. Foi et constitution, vous avez un document que je vous propose, en 1927. L'aboutissement sera la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948, le COE. Cette structure rassemblait au départ 147 églises non romaines et plus de 340 aujourd'hui. Le COE, le Conseil œcuménique des Églises, dont le fait d'être membre ne conduit pas à renier ses propres convictions doctrinales ni à accepter aucune doctrine spéciale sur la nature de l'unité, ce Conseil œcuménique des Églises n'entend pas se substituer aux Églises ou constituer une quelconque autorité mondiale concernant la foi chrétienne. Entre 1910 et 1948, il faut noter le rôle et l'influence de plusieurs personnalités, comme l'abbé Fernand Portal, qui, avec l'anglican Lord Halifax et l'appui du cardinal Mercier, organise les conversations de Malines, 1921-1925. L'abbé Paul Couturier, qui promeut la prière pour l'unité et prend l'initiative de la semaine pour l'unité des chrétiens, 1935. Et il est d'ailleurs lui aussi, en 1937, à l'origine du groupe des Dombes. En 1949, le pasteur Roger Schutz fonde la communauté monastique de Thésée, dont on sait le rôle qu'elle a joué jusqu'à nos jours, particulièrement chez les jeunes dans la recherche de l'unité. L'Église catholique va de son côté, directement ou indirectement engagée dans le mouvement œcuménique, tenir une place essentielle. Sans omettre la longue maturation aidée par les théologiens, qui s'est réalisé auparavant, c'est quand même le pontificat de Jean XXIII et le Concile Vatican II qui vont marquer un engagement concret et décisif de l'Église catholique. En 1960, Jean XXIII crée le Secrétariat pour l'unité des chrétiens, devenu en 1989 le Conseil pontifical pour la promotion et l'unité des chrétiens. Alors il est difficile de résumer en quelques mots l'impact du Concile Vatican II sur le dialogue œcuménique. Après avoir précisé que la plupart des observateurs invités répondirent présents et jouèrent un rôle important, nous retiendrons le nom de 4 documents qui, complémentairement, indiquent à la fois une évolution du côté catholique et un déblocage incontestable du dialogue. Dans la Constitution, on ne le dit pas assez, sur la révélation. Le Concile Dei Verbum. Le Concile met fin à la théorie des deux sources et proclame qu'écriture et tradition jaillissent d'une source divine identique, la parole de Dieu. Dans la Constitution sur l'Église, la hiérarchie de l'Église est située à l'intérieur du peuple de Dieu, et non pas au dehors. De même, le texte sur la Vierge Marie ne fait pas l'objet d'une définition spéciale, mais est intégré au document d'ensemble sur l'Église. Mon Dieu, que ça a créé des débats, cela. Il y avait un certain nombre d'évêques qui voulaient un document sur Marie, alors, là, reprenant les grands axes de la mariologie traditionnelle. Non, c'est l'Église. Par ailleurs, une précision est apportée qui sera amplement commentée par la suite. L'unique Église du Christ. Le Concile dit bien, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures. Et c'est ça qui est important dans le débat. Dans le décret sur l'œcuménisme, enfin, ce fameux décret, le Concile, dans la même perspective d'ouverture qu'il a exprimée dans la déclaration sur la liberté religieuse, encourage l'action et le mouvement œcuménique et souhaite que les initiatives catholiques progressent unies à celles des frères séparés sans mettre un obstacle quelconque aux voies de la Providence et sans préjuger des impulsions futures de l'Esprit-Saint. De fait, les 30 années qui ont suivi sont fidèles à ce vœu. L'aboutissement, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est l'encyclique de Jean-Paul II, Ut unum sint. Et puis cette période est marquée par de nombreux événements, un nombre considérable d'initiatives sont prises, la levée des excommunications entre Rome et Constantinople, en 1965, les assemblées régulières du Conseil œcuménique des Églises, la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, en 1975, la création en France du Conseil des Églises chrétiennes, en 1987, et puis l'importante déclaration, bien sûr, commune, luthéro-catholique, sur la justification, en 1999. Donc voilà un peu d'histoire, évidemment. Il fallait le faire, je crois. On ne peut pas nier tout ce développement qui est situé dans l'histoire. Alors, les trois dimensions de l'œcuménisme, deuxième point, elles sont exprimées par trois mots, spirituel, doctrinal et pratique. Trois aspects du mouvement œcuménique que l'on peut distinguer, même s'ils ont été et restent profondément articulés. D'abord, l'œcuménisme spirituel. Le Concile Vatican II rappelle « Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. » En effet, c'est du renouveau de l'âme, du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de l'unité. On peut dire, sans risque d'erreur, que le souci de l'unité chrétienne a été porté tout au long de ces décennies par la prière des responsables à tout niveau et des communautés chrétiennes. L'unité est d'abord une affaire de conversion et d'humilité, une forme de dépouillement institutionnel et personnel, comme a su le rappeler Jacques Dessault, hélas décédé trop tôt. La référence de toute démarche œcuménique est le Christ de la Passion, à l'orée de laquelle Saint Jean place la grande prière dont est extraite la fameuse exhortation qui est un peu la charte de l'œcuménisme, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi, je suis en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Avoir la même profession de foi, dire ensemble notre Père, confesser un seul baptême, c'est bien le signe qu'avant tout débat doctrinal ou tout contentieux douloureux du passé, nous pouvons prier le même Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint d'un même cœur. L'abbé Couturier, je le rappelais à l'instant, l'a bien compris en fondant en 1935 la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les groupes et cercles œcuméniques qui se développeront progressivement sont encore aujourd'hui à la base des cellules vivantes et des témoins d'une unité acquise et donnée par le Christ qui, en dépit des fragilités et des tensions internes, est présent au milieu de ceux qui prient en son nom. Même si nos divergences demeurent et ne permettent pas officiellement de partager la même table eucharistique, nous y reviendrons aussi, la participation à des célébrations communes ou à des cultes des autres églises, avec participation active des autres confessions, entre autres par la prédication, a permis de vivre des temps forts de prière qui demeurent aujourd'hui un appui essentiel pour les recherches théologiques. Il n'y a pas de théologie sans prière, c'est clair. Et les théologiens le savent, même si quelquefois ça leur fait mal de s'en rendre compte pour eux-mêmes. Karl Rahner, le grand Rahner, l'allemand, disait dans le traité fondamental de la foi, à un moment donné, quelque chose de ce type-là, nous théologiens ne sommes capables d'avoir une foule de mots, d'être très cultivés pour parler de Dieu et de la Trinité. Mais il arrive souvent que nous ne prenions pas les moyens de comprendre de l'intérieur ce que nous disons. Voyez, nous, théologiens, nous avons ce risque. Ah, on va vous dire tout ce qu'il faut, je parle pendant une heure sur trois versets de la Bible. Est-ce que vous le vivez, mon père? Est-ce que vous le vivez, ce que vous dites? Ça se voit. Ça doit se voir. Et l'unité, c'est ça aussi. Comprenez, c'est très important. Alors, l'œcuménisme doctrinal, il a réalisé, deuxième point, depuis des siècles, depuis les conversations de Malines, des avancées considérables. Non seulement les dialogues officiels, mais aussi par de multiples initiatives complémentaires qui ont vu le jour. Groupes de réflexion, travaillant sur la Bible, ou sur les questions théologiques, création et développement de centres de formation et de recherche, en particulier dans le cadre d'universités catholiques, je l'ai cité, comme Paris, Lyon ou Toulouse, sessions, colloques, rencontres annuelles, de véritables foyers de l'œcuménisme ont tenu une place importante et poursuivent leur mission, comme les abbayes du Bec-et-Loin, de Chevetogne et de Belloc, ici, à Paris, l'Institut supérieur d'études œcuméniques, Liceo, à Lyon, le Centre Saint-Irénée et le Centre Unité Chrétienne, mais aussi la réunion de tous les 3 ans des délégués et responsables œcuméniques, catholiques, protestants et orthodoxes de France. Ces initiatives ont été concrètement dans le sens ardemment souhaité par le Concile Vatican II, puis cité, repris et encouragé par Jean-Paul II dans son encyclique tout à l'heure dont nous parlions. Il cite, il dit ceci, « Par ce dialogue, tous acquièrent une connaissance plus conforme à la vérité et une estime plus juste de la doctrine et de la vie de chacune des communautés. Ces communautés en viennent aussi à une collaboration plus large dans toutes les tâches visant le bien commun selon les exigences de toute conscience chrétienne. » Alors, 2 témoins majeurs de ce dialogue, le groupe des Dombes. Dialogue entre catholiques et protestants. Ce groupe n'est pas officiel et les théologiens qui y participent n'engagent qu'eux-mêmes. Mais il a réalisé, depuis sa fondation en 1937 par Couturier, un exceptionnel travail d'approfondissement et de clarification. Des réunions annuelles, une technicité et un sérieux dus à la compétence des participants, le soutien d'une prière commune, un climat amical et confiant, sans que soient éludées les vraies questions ou sous-estimer les difficultés. Tout cela a donné des résultats importants pour la recherche œcuménique. Les débats et les confrontations théologiques menées dans un climat de recherche et de véritable dialogue ont conduit, mais seulement après plusieurs années d'existence quand même, à la publication commune d'accords dont je cite quelques noms, 1971, vers une même foi eucharistique, 1973, pour une réconciliation des ministères, 1976, le ministère épiscopal, 1979, l'Esprit Saint, l'Église et les sacrements, vous voyez, on y va, là, sur le plan de la recherche, en 1985, le ministère de communion dans l'Église universelle, pour la conversion des Églises en 1991, Marie, un très beau texte, dans le dessein de Dieu et la communion des saints en 1999, un seul maître, l'autorité doctrinale dans l'Église en 2005 et en 2011, enfin, vous donc priez ainsi de notre Père itinéraire pour la conversion des Églises. Et puis, deuxième groupe important, foi et constitution, auquel participent depuis 1968 des théologiens de l'Église catholique nommés par Rome, et qui a fait aboutir en 1982 un document très important, dont je vous donne un extrait au verso, n'est-ce pas, qui, s'il n'est pas présenté comme un accord, est plutôt un texte de convergence sur baptême, eucharistie, ministère. La première originalité de ce document, c'est d'avoir été signé par des représentants des 4 grandes églises chrétiennes, protestants, orthodoxes, anglicans et catholiques. La seconde originalité est d'avoir été proposée en vue d'une réception après réflexion et approfondissement. Ce texte, qui traduit des niveaux de convergence différents, majeurs sur le baptême, importants sur l'Eucharistie, on le voit avec ce que j'ai dit, ce que je vous ai donné, plus laborieux sur les ministères, ce texte reste une référence et représente un bon exemple de dialogue et d'œcuménisme doctrinal. Et là, on en arrive à l'œcuménisme pratique, 3 aspects, spirituel, doctrinal et pratique. On pourrait tout aussi bien parler de la dimension diaconale de l'œcuménisme, dont toutes les recherches et avancées sont au service du bien de l'humanité. Je cite souvent Saint Jean, ce chapitre 17 de Saint Jean, l'appel à l'unité, mais bien sûr Jean 13, avec le lavement des pieds, ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Cet aspect n'est pas le moins important, étant même considéré par quelques théologiens comme le plus immédiatement réalisable. Il s'agit, les premiers obstacles étant levés, les soupçons mutuels écartés, d'œuvrer ensemble et de donner un témoignage commun de baptiser au nom du Christ dans la société actuelle. Si je commence à improviser là-dessus, j'en ai pour une heure. Donc je vais plutôt tout à l'heure aux questions. Mais je me dis, dans le contexte social qui est le nôtre actuellement, les chrétiens, nous chrétiens, là je dis nous chrétiens, c'est la démarche œcuménique au départ, ne mettons pas notre foi dans la poche de l'évangile ailleurs. Au cœur même de tous les débats, les plus vifs sur le plan éthique en particulier, nous avons, bon, je ne reviens pas sur des questions actuelles, mais nous sommes là et nous avons quelque chose à dire et on ne nous fera pas taire. Ça, c'est extrêmement important de savoir. On ne nous fera pas taire. Ouais. C'est l'urgence d'une parole forte. Le mouvement œcuménique a été sur ce point sans cesse marqué par des initiatives concrètes. Le Conseil œcuménique des Églises intègre deux sections, justice, paix et création, et partage et service. En 1965, fut créé avec l'Église catholique un groupe mixte de travail. Et en 1968, une commission pour la société, le développement et la paix, la SODEPAX. Mais de multiples initiatives ont vu le jour, et je pense bien sûr à la CAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, mouvement ayant une responsabilité partagée, catholique, orthodoxe et protestant. Je vais vous faire sourire un peu, il faut se détendre quelquefois. Je présentais à Toulouse, à la fin d'une messe, les activités en disant « nous avons eu une rencontre de la CAT ». L'action des chrétiens contre l'abolition de la torture. Alors, je voyais devant quelqu'un qui me faisait comme ça. Est-ce que c'est pour l'abolition de la torture? Mais quand il y a des sigles comme ça, il faut faire attention. Pour illustrer cet effort, nous pouvons rappeler les quatre engagements de l'Assemblée internationale de Séoul en 1990, organisée par le Conseil épiscopal des Églises, avec la contribution de l'Église catholique. Travailler à l'établissement d'un ordre économique équitable et à la libération de l'asservissement de la dette extérieure. 2. Travailler à l'instauration d'une sécurité authentique de tous les peuples et de toutes les nations et d'une culture de la non-violence. 3. Travailler à la préservation de ce qu'est l'atmosphère terrestre, on y est dedans, hein, et à l'édification d'une culture qui respecte la création. Et 4. Travailler à l'élimination du racisme et de la discrimination envers tous les êtres humains et à tous les niveaux, et aussi à l'élimination des modes de comportement qui perpétuent le péché de racisme. C'est une assemblée internationale, œcuménique, qui a fait cela et qui l'a dit. Il faut le savoir, cela. Et puis, prière pour la paix, déclaration commune sur les problèmes majeurs de société, engagement précis, tant au niveau des responsables que des groupes mixtes, bien sûr. Les chrétiens se retrouvent toujours, plus souvent, pour défendre la dignité humaine, pour promouvoir le bien de la paix, l'application de l'Évangile dans le domaine social. Depuis les pères de l'Église, hein, Saint Basile de Césarée et Saint Jean Chrysostome n'avaient pas peur de dire aux autorités civiles « Vous ne passerez pas, vous ne rentrerez pas dans cette Église tant que vous n'aurez pas aidé les pauvres qui sont devant la porte », etc. Ils l'ont payé par des exils, ça. Enfin, on ne les a jamais empêchés de parler, vous voyez. C'est depuis les origines que le christianisme porte ce souci de la justice sociale. Donc voilà les trois dimensions. Maintenant, troisième point, le baptême. Alors, vous voyez mon plan, le baptême, élément stable. L'unité acquise, ensuite l'unité différenciée, des accents singuliers, l'unité avancée, ce qui a progressé, et l'unité freinée, ce qui résiste. Voilà. Alors, d'abord le baptême, troisième point. Élément stable ou l'unité acquise, marquée comme nous le sommes par le passé et le poids institutionnel et psychologique de nos divisions. Nous ne mettons pas suffisamment en valeur ce qui nous rassemble. Ça paraît banal, mais je pense que c'est une banalité à dire. Pour reprendre une expression chère à Jean-Marie Tillard, le dominicain, si nous ne sommes pas encore une église, une ecclesia una, rassemblés par l'Eucharistie, nous sommes tout de même une église unique, Ecclesia Unica, dont le signe majeur est le baptême. Excepté certaines tendances conservatrices extrêmes, le baptême donné au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit est reconnu par toutes les églises actuellement engagées dans le dialogue œcuménique. On ne rebaptise pas de façon habituelle quelqu'un qui l'a été dans son église et demande, pour des raisons qui lui sont propres, à changer d'appartenance. Les exceptions sont tout de même à noter chez les Grecs, orthodoxes, les baptistes ou certains évangélistes. Le baptême est donc l'élément stable, la base commune de référence et d'une certaine façon le signe de l'unité acquise et donnée par le Christ, en deçà des divisions qui restent encore effectives. Il y a un ensemble d'éléments de convergence et un accord de fond sur les données de foi formulées par les premiers conciles, en particulier celui de Nicée-Constantinople. La charte de fondation du Conseil œcuménique des Églises le dit à sa manière, en définissant cette assemblée comme une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, selon l'Écriture, et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a donc une confession de foi commune, intégrant comme référence les toutes premières confessions de foi baptismales du christianisme, et que nous proclamons à chaque veillée pascale, et lors de la célébration du baptême. Cette confession est trinitaire, et constitue le cœur des deux grands symboles, le symbole des apôtres, et le symbole de Nicée-Constantinople, que nous pouvons dire ensemble, hormis pour chez les protestants, je les comprends, la réticence sur l'expression « Église catholique ». On est passé là-dessus maintenant. Hein. Et pour les orthodoxes, le fait, ça c'est plus sérieux, que ceux-ci regrettent l'ajout par l'Église d'Orient, dès le VIe siècle et surtout officiellement au XIe siècle, du fameux « filioque ». L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, dans le symbole de Nicée-Constantinople. Cette dernière différence, d'ailleurs, sur le filioque, pose de moins en moins de problèmes. J'en ai parlé plus souvent avec les théologiens orthodoxes. La question pourrait être résolue si on la voulait très rapidement. D'ailleurs, lorsque le pape a dit le symbole de Nicée-Constantinople avec les orthodoxes pour une ou autre manifestation officielle, il n'a pas dit le filioque, tout simplement. Il a dit le texte officiel de Nicée-Constantinople. Certes, derrière les mêmes mots, particulièrement en ce qui concerne l'affirmation de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, il peut y avoir des interprétations différentes. Mais sont-elles réellement destructrices de l'unité réalisée autour du Dieu Trinité et du Christ Sauveur ? Il est à noter que la charte œcuménique de 2001 professe comme commune cette foi, en précisant la charte œcuménique, nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous pouvons souligner que les grands symboles de la foi, autour desquels doit se poursuivre notre progression commune dans l'unité visible, n'incluent véritablement et directement aucun des points qui sont actuellement en débat. Ces points sont pour la plupart dus au développement des affirmations de base sur l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. C'est bien là la compréhension élargie de ces quatre aspects qui pose encore problème. Il y a donc un accord complet sur l'affirmation trinitaire, sur Dieu, le Père, Créateur, sur Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, Sauveur, sur l'Esprit-Saint, accord également sur une base théologique minimale des quatre aspects de l'Église. Elle est une et unique en elle-même, par son lien au Christ qui en est la tête. Si les divisions ont altéré le caractère visible de cette unité, elles ne touchent pas l'Église dans sa nature mystique et invisible. Pour reprendre l'expression devenue emblématique d'un évêque orthodoxe, les murs de la séparation ne montent pas jusqu'au ciel. Elle est sainte. Par le Christ et l'action de l'Esprit Saint, s'il peut y avoir des approches différentes de la sainteté, lorsqu'on parle des membres de l'Église, celle-ci, comme corps du Christ, rayonne de la sainteté même de Dieu. Et elle est catholique au sens étymologique d'universel, appelée à annoncer l'Évangile jusqu'aux limites du monde et aux hommes et aux femmes de toutes nations et cultures, au sens également d'intégralité de la foi. Pas l'intégrisme, hein, l'intégralité, c'est très différent. Elle annonce tout ce qui importe au salut. Et elle est apostolique par fondation et par structure, au sens où elle s'appuie sur le témoignage, la foi et la mission donnée par le Christ aux apôtres. Si les divergences demeurent, en majeure partie avec les protestants sur la compréhension catholique et orthodoxe de la succession apostolique, par exemple, il y a reconnaissance d'une véritable apostolicité de l'Église. C'était un point d'accord et de débat avec mon ami, hélas, parti trop tôt, Michel Nort, avec qui j'ai beaucoup avancé sur le plan théologique quand j'étais à l'Institut catholique de Toulouse. Il m'a dit, mais la succession apostolique, je suis d'accord, André, je suis d'accord. Mais c'est la succession apostolique de l'Église, c'est l'apostolicité de l'Église. Et c'est la succession peut-être des communautés. Hein. Il y a une succession, oui, effectivement. Mais ce n'est pas l'appel, c'est pas la succession de tes évêques à toi. Bon. Mais j'essayais de comprendre quand même. Mais c'est intéressant, parce qu'ils ne sont pas contre la succession apostolique. Mais c'est toute l'Église qui se succède en permanence, d'une certaine manière. On peut penser, pouvons-nous tenir ensemble les propositions majeures de la confession de foi chrétienne. On peut penser, et cela n'est pas sans conséquence sur l'avenir, que le geste d'une affirmation et d'une proclamation commune est en soi la reconnaissance d'une unité acquise, c'est ça que je veux dire, et qui n'est pas menacée par la différence des convictions respectives, dont un bon nombre pourront être progressivement clarifiées à la lumière de ce qui nous est fondamentalement commun. Sur ce point, il est bon de rappeler des paroles particulièrement importantes de Paul VI au patriarche Athénagoras, la grande rencontre entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. La charité doit nous aider, comme elle a aidé Hilaire et Athanase, père de l'Église, à reconnaître l'identité de la foi au-delà des différences, au-delà des différences de vocabulaire. Au moment où de graves divergences divisaient l'épiscopat chrétien, Saint Basile lui-même, dans sa charité de pasteur, ne défendait-il pas la foi authentique dans le Saint-Esprit, en évitant d'employer certains mots qui, si exacts qu'ils fussent, pouvaient être l'occasion de scandale pour une partie du peuple chrétien? C'était des pédagogues, les pères de l'Église, garantis. Et saint Cyril d'Alexandrie n'acceptait-il pas en 433 de laisser de côté sa belle théologie pour faire la paix avec Jean d'Antioche, après qu'il fut certain qu'au-delà des expressions différentes, leur foi était identique? Oui. Quatrième point, des accents singuliers ou l'unité différenciée. Donc, je viens de voir, l'unité acquise. Ce qui est acquis. On ne pose plus de problème. Ce qui est acquis. Moi, j'ai fait baptiser, j'ai participé pendant quelques années avec Michel Nord ou avec d'autres pasteurs amis à des baptêmes. C'est le pasteur qui a baptisé, et à trois reprises, il a baptisé un catholique. Enfin, il a baptisé un catholique, ça ne veut rien dire. Il a baptisé quelqu'un qui s'inscrivait dans une tradition catholique et qui ensuite allait aller au catéchisme de l'Église catholique. Mais c'est le pasteur qui l'a baptisé. C'était formidable comme geste. Les gens, ils n'en revenaient pas. Il a dit, ça peut se faire. Mais oui, bien sûr que ça peut se faire. C'est la même foi. C'est la même foi trinitaire, n'est-ce pas?
Les enjeux de l'œcuménisme, présentation générale. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention de Mgr André Duplex, théologien, recteur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse et professeur à l'antenne de théologie des Pays de la Doure. Cette intervention a été enregistrée le 17 octobre 2019 à Pau lors d'un cycle proposé par le service diocésain de la formation permanente et par le service diocésain de l'œcuménisme. La semaine prochaine, même jour, même heure, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de l'intervention de Mgr André Duplex.